explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Le temps d'un bivouac.
C'est une île sauvage qui appartient à l'archipel Crozet, au sud de l'océan Indien. Un petit monde à part qui porte un drôle de nom, l'île aux cochons. On y trouve pourtant une faune bien plus dépaysante. Ce morceau de terre sans arbres, balayé par les vents, est le paradis des éléphants de mer, des albatros et des manchots royaux. La plus grande colonie de manchots royaux au monde a été observée là en 1982. Elle comptait à l'époque pas moins d'un million d'individus. Ce site étant une réserve intégrale, pendant près de 40 ans, aucun humain n'y a mis le pied. Mais en 2018, stupeur, un survol de l'île révèle que 90% de sa population de manchots a disparu. Pour tenter de comprendre les raisons de cette hécatombe brutale et inattendue, une expédition scientifique s'est rendue sur place peu de temps après. Le grand reporter Michel Izard a eu l'autorisation d'accompagner les chercheurs durant cette mission exceptionnelle. Il raconte cette expédition dans un livre intitulé « Le mystère de l'île aux cochons » aux éditions Paulsen. Son ouvrage relate aussi l'histoire de l'île, le périple des explorateurs qui l'ont découverte il y a 250 ans, la vie des chasseurs de phoques qui l'ont abordée au 19e siècle, mais aussi le calvaire des naufragés qui s'y sont réfugiés par le passé. Cet après-midi, Michel Izard nous emmène dans le fracas des mers australes à la découverte de l'île aux cochons et de ses mystères. Claire Tesser a préparé cette émission, Stéphanie Texier l'a réalisée, avec à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On est maintenant dans les eaux subtropicales, donc on voit des oiseaux subtropicaux. Il y a deux jours, on voyait des oiseaux tropicaux, et puis dans deux jours, on verra des oiseaux qui sont vraiment subantarctiques.
Nous descendons au cap 189, quasiment plein sud, hein, sur les îles froides qui font partie de l'archipel de Crozet, que sont les îlots des apôtres, et l'île aux cochons qui est notre prochaine destination. Ça fait quelques années que personne n'y a mis les pieds.
Et bah, évidemment, comme c'est très 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 difficile d'avoir les permis et logistiquement d'y aller, ça nous fait un peu rêver.
Bonjour Michel Izard.
Bonjour.
Il faut vous voir avec ce sourire en entendant les voix de deux compagnons de route, le biologiste Yves Chérel et puis Adrien Essautier, le commandant du Marion Dufresne. Vous étiez avec eux sur ce navire pour vous rendre sur cette île qui a fait rêver des générations de naturalistes, l'île aux cochons. Nous verrons un peu plus tard pourquoi elle porte ce drôle de nom. Mais d'abord, dans quel état d'esprit vous étiez, vous, Michel Izard, à quelques jours d'accoster sur cette île?
C'est un état d'esprit, si vous voulez, où on est dans une sorte d'attente, parce que il faut 5 jours et demi, 6 jours pour atteindre cette île. 2700 kilomètres depuis La Réunion, donc on a le temps de s'y préparer. Et puis, comme le disait Yves Chérel, on voit l'environnement changer, les oiseaux changer, le vent forcir, la mer se former, ça devient plus froid aussi. Mmh. Et puis, sur ce bateau qui transporte des scientifiques et des logisticiens qui vont ravitailler faire les relèves dans les stations françaises des terres australes, il y avait un peu de monde à part ceux qui faisaient leur mission habituelle et puis 6 personnes qui allaient sur cette île aux cochons. Et cette attente-là et cette destination nous mettait un petit peu à part sur ce bateau.
Oui, alors vous aviez la chance d'accompagner ces 6 personnes en tant que grand reporter avec un caméraman. Donc vous étiez 8 à partir pour cette île aux cochons. C'est une chance incroyable pour vous.
Ah oui, c'est une chance incroyable. Et c'est incroyable aussi de la sentir s'approcher. Et puis, un matin, de la voir surgir de l'horizon dans une brume, ça paraît presque un cliché, c'est la légende des explorateurs qui la découvrir, mais ça s'est passé comme ça. Tout d'un coup, on nous appelle là, et elle est là.
Elle est là. Cette île qui n'a pas été visitée depuis 37 ans au moment où vous vous rendez dessus, et au cours du 20e siècle, il y a eu seulement 3 expéditions très brèves sur cette île. Hein. C'est une réserve intégrale, une sorte de sanctuaire où les humains sont des intrus.
Oui, les humains sont des intrus. D'ailleurs, on le sentira tout de suite en arrivant que nous sommes des intrus, que les hommes n'ont rien à faire sur cette terre-là.
Ouais. Pour vous, cette île, c'est une promesse de dépaysement. Vous citez, vous avez une très jolie citation d'Albert Londres, « C'est loin parce que c'est indéchiffrable ». C'est-à-dire que cette île qui est à quand même 13 000 km de la métropole,
oui,
c'est pas pour ça qu'elle est loin, mais c'est parce qu'elle est différente, elle est indéchiffrable. Qu'est-ce qu'elle a d'indéchiffrable ?
Ce qu'elle a d'indéchiffrable, c'est que la nature vous explose au visage, vous saute à la gueule, si je puis dire, de manière frappante.
Ouais. Pas d'arbres, des papillons, mais des papillons sans ailes, pas de fleurs non plus,
non.
Des oiseaux qui ne volent pas, hein. Ces manchots plongent, mais ils ne volent
ils
pas.
Volent pas, ouais.
C'est un monde très différent.
Oui, c'est une autre planète et elle a ce papillon sans ailes qui est un petit peu l'exemple de ce monde à part, puisqu'il fait un vent si puissant que ses ailes se sont atrophiées et il court comme un insecte et c'est pourtant un papillon qui fait sa chrysalide et les manchots sont des oiseaux qui ne volent pas et qui, là où c'est quelque chose d'absolument saisissant, c'est qu'ils sont absolument sauvages et pourtant très familiers.
Ouais. Alors on le verra dans la suite de cette émission. Quand cette île a-t-elle été découverte ?
Alors cette île a été, je dirais, même pas découverte, entreaperçu un matin du 22 janvier 1772, le marin malouin Marc-Joseph Marion Dufresne part en expédition pour découvrir ces terres australes qui étaient des terres mythiques, la Terra Australis Incognita, qui faisait rêver les marins depuis des générations. Et à la fin du 18e siècle, plusieurs expéditions se rendent là-bas dans ces lieux inconnus.
Ouais, alors il faut se mettre dans l'état d'esprit de ces explorateurs. Hein. Vraiment, eux, ils sont en quête de terres paradisiaques, d'un nouveau continent. Ils traversent des mers que aucun des explorateurs des siècles précédents, Vasco de Gama, Magellan, n'ont traversé. Oui. C'est vraiment les derniers grands explorateurs, finalement. Hein.
C'est parmi les derniers grands explorateurs, parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes, et eux, ils ont quelque chose à découvrir. Et Marion Dufresne, lui, il a quand même un esprit qui est vraiment celui un peu presque scientifique, c'est-à-dire de témoigner en vérité de ce qu'il voit et pas de se faire un roman, parce que ces terres australes faisaient rêver à l'époque au XVIIIe siècle. On pensait y trouver de grandes richesses, y découvrir d'autres peuples, et lui, il s'aperçoit que ce sont des terres hostiles, battues par les vents et qui sont pas du tout faites pour l'homme.
Alors on n'a jamais retrouvé le journal de Marc-Joseph Marion Dufresne qui mourra tué et mangé par les Maoris en Nouvelle-Zélande quelques mois après sa découverte de l'archipel Crozet. Mais parmi son équipage, il y avait un certain Jean Roux dont vous avez pu lire sur des microfilms le journal. Voici comment il raconte la découverte de ce que l'on nommera plus tard l'île aux cochons.
« 17 janvier 1772. Le ciel est continuellement brumeux. Nous avons des indices de terre. Il faut remarquer qu'aussitôt que l'on voit des loups marins, pingouins, plongeons et divers oiseaux, ce sont des indices certains de la proximité de la terre. 19 janvier, nous eûmes tant de ces indices que l'on diminua la voile, parce que la brume était si épaisse que l'on ne distinguait pas le devant du vaisseau de l'arrière. » Le 21, nous la vîmes dans le nord, 30 degrés est, à très grande distance. Elle nous parut d'abord fort élevée et ne formait qu'une seule île. Mais ayant couru environ 5 lieues, nous découvrîmes dans le sud de la première une seconde île, plus haute et plus étendue. Les vents du nord nous empêchèrent d'approcher davantage. Le soleil, qui ne se montra que peu, rendit cette observation douteuse.
Extrait du journal de Jean Roux, qui faisait donc partie de l'équipage de Marc-Joseph Marion Dufresne. On s'en rend compte, elle apparaît dès le début, hein, dès sa première apparition, cette île, elle apparaît nimbée de mystère, Michel Izard.
Oui, un mystère, parce que c'est comme si c'était une apparition, presque un mirage, et pourtant elle existe. Et pourtant, derrière ce voile de brume, il y a toute une vie que, à l'époque, les marins comme Marion Dufresne n'imaginaient pas, ils ne sous-doutaient pas que derrière cet écran, il y avait tant de manchots, un tel foisonnement de vie à l'état totalement vierge à ce moment-là.
Alors pourquoi ils n'accostent pas sur cette île qu'ils n'ont jamais vue ? Ce sont les premiers hommes à l'approcher et pourtant... ils ne mettent pas le pied dessus.
Mais ils ne mettent pas le pied dessus parce qu'elle est très difficile d'accès. Elle est entourée de brisants. Et même nous, quand nous y sommes allés, sur le navire Marion Dufresne, 2 siècles et demi après, malgré les cartes marines, malgré tous les appareils techniques, eh bien le commandant était très prudent parce que la route n'est pas très connue. Ouais. Et le risque est permanent.
Alors Marion Dufresne va quand même accoster sur une des îles de cet archipel, l'île qui deviendra l'île de la Possession, justement la bien nommée île de la Possession, puisque c'est sur cette île seulement qu'il descend. Et de quelle manière à cette époque on s'approprie une terre nouvelle ? Vous le racontez avec des détails assez savoureux dans votre livre, Michel Izard.
Ah oui, mais c'est assez extraordinaire de penser qu'à l'époque il y avait un respect entre les marins et qu'il suffisait qu'ils aillent sur une île, qu'ils racontent ce qu'ils ont fait, qu'ils en ramènent un échantillon, et ils y déposaient une bouteille dans laquelle il y avait un parchemin, enfin un bout de papier, écrit au nom du roi Louis, Louis XV à l'époque, la France prend possession de ce territoire, et ça valait aux yeux des autres pays, ça valait prise de possession.
C'est ainsi que cet archipel, l'archipel Crozet, va devenir la propriété des Français. Il se nomme Crozet parce que Julien Crozet était le second de Marion Dufresne. C'est d'ailleurs avec James Cook que ça a été décidé. Autre grand explorateur, racontez cette entrevue entre James Cook et Julien Crozet.
Oui, oui, ça c'est un moment extraordinaire au Cap, la ville du Cap, qui était à l'époque vraiment un point d'ancrage et de retrouvailles pour beaucoup de marins. En 1775, Julien Crozet rencontre James Cook qui veut le voir. Il est ému parce que James Cook, il y a, si vous voulez, dans l'histoire de l'exploration, il n'y a rien au-dessus de James Cook. C'est le patron. Et donc, James Cook le reçoit, lui demande des détails et à la suite de la conversation, il dit... vous méritez cela, cet archipel va s'appeler l'archipel Crozet. Et c'est aussi pourquoi il est français aujourd'hui, parce que un jour, Marion Dufresne est passé, ils ont laissé une bouteille, et aujourd'hui, il y a une station française.
Ouais, ça tient à pas grand-chose. Mais alors pourquoi cette île sur laquelle vous vous êtes rendu de l'archipel Crozet se nomme l'île aux cochons, hein ? On est d'accord, quand vous y êtes allé, vous n'avez pas vu la queue d'un cochon.
On n'a pas vu la queue ni le groin d'un cochon, et elle s'appelle l'île aux cochons, c'est un nom d'usage qui a été donné par les fauquiers, les chasseurs de phoques, qui s'installaient à partir du 19e siècle sur ces îles pour y chasser des phoques, faire de l'huile qui servait à éclairer les villes d'Europe et d'Amérique. Et pour avoir un garde-manger, ils ont introduit des animaux domestiques, parfois des lapins et parfois des cochons. Et sur cette île aux cochons, il y a des témoignages écrits disant que dès 1820, il y avait des cochons.
On aura l'occasion d'y revenir et vous allez bien sûr nous dire comment s'est passée votre expédition à vous sur cette île déserte, revenue à l'état sauvage. Le grand reporter Michel Izard nous emmène bivouaquer au milieu des manchots et des éléphants de mer dans les brumes de la mystérieuse île aux cochons de l'archipel Crozet cet après-midi sur France Inter. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only 4 degrees. It's only 4 degrees, it's only
I wanna bend down, I wanna bend down. I wanna burn the sky, I wanna burn the breeze. I wanna see the animals die in the trees. Let's go, it's only 4 degrees. Let's go, it's only 4 degrees. Let's go, it's only 4 degrees. I wanna bend down.
C'était 4 Degrees de Anony sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
C'est pas évident de trouver un endroit sec.
Ah ouais.
Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'endroit pour le campement. Donc là, il nous reste 10 minutes pour trouver un endroit. Est-ce qu'il faut pas qu'on se mette derrière la butte là-bas? Ça, c'est trempé. Hein. C'est pas mal, non? Alors on la met là.
Ouais, là on a de la chance.
Ouais, là c'est de la chance.
Non, mais là c'est super.
Tu fais un brief là ou pas?
Ouais, petit brief. On nous a demandé cette sécurité absolue. On aura des contacts réguliers avec le bateau, mais il faut bien être conscient que le bateau ne peut pas être là avant 7 ou 8 heures si vous arrivez quelque chose dans les meilleures vraiment conditions. Chacun a sa trousse de secours. On part pas sans. La VHF, moi j'aurai toujours la VHF allumée.
Il faut toujours prévoir. On n'est pas à l'abri de réussir, mais il faut prévoir le pire.
Yves Chérel et Cédric Marteau, deux des scientifiques de l'expédition que notre invité, le grand reporter Michel Izard, a accompagné sur l'île aux cochons dans l'archipel Crozet. Et on l'entendait à peine arrivé, le temps est compté. Hein. Vous êtes déposé par un hélicoptère sur cette île et 10 minutes pour décider de l'endroit où établir le campement. Pourquoi cette urgence ?
Ben, il faut pas perdre une seconde. D'abord parce que le bateau, le Marion Dufresne, il a d'autres missions dans l'archipel Crozet. Et puis aussi parce que chaque seconde sera comptée pour cette expédition. On va rester 5-6 jours et les scientifiques savent que c'est un compte à rebours. Mmh. Et on se retrouve donc là, sur cette île. Et à un moment donné, le bateau s'en va.
Ouais.
Et je dois confesser que au moment où le bateau s'en va, au moment où on ne le voit plus...
Ouais.
C'est le moment que j'attendais. Je disais, qui s'en aille ce bateau qui nous laisse pour qu'on soit enfin seul, loin, si loin, loin de tout.
Mais il n'y a aucune inquiétude. C'est-à-dire, on entendait les consignes de sécurité. C'est-à-dire que le bateau s'éloigne. Vous savez que quoi qu'il arrive, il faut une bonne journée pour que quelqu'un puisse venir vous secourir. Et encore, il faut qu'il fasse beau pour que l'hélicoptère puisse arriver et la météo est compliquée là où vous êtes.
Oui, c'est vrai que on est coupé. On pourrait faire aucune expédition s'il fallait être en sécurité à chaque seconde. Mmh. Et disons, le danger, c'est pas vraiment un danger qu'on court sur cette île, mais c'est un territoire absolument inconnu.
Ouais.
Il n'y a pas de chemin. Il n'y a rien de connu absolument et très peu de choses décrites. Et en tout cas, si elles avaient été décrites, elles ont probablement changé, si bien que tout est nouveau. Et donc, il faut quand même faire un peu attention.
Ouais. Alors, votre premier tête-à-tête avec un oiseau, c'est un albatros. Il vous regarde sans crainte, peut-être avec un peu de surprise. Difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête de cet albatros. Mais vous, comment vous vivez cette première rencontre ?
Mais peut-être pour moi, c'est le moment le plus frappant, le moment qui m'a le plus marqué, parce que on entend parler des albatros, c'est un oiseau mythique, c'est le plus grand oiseau du monde, 3,70 m d'envergure. Baudelaire, évidemment, l'a chanté, mais là, je me suis retrouvé face à cet oiseau, je dis, mais il est énorme à terre, quand il se dresse sur ses pattes, il vous arrive à la moitié du corps, et puis il nous regarde fixement avec son bec en forme de cimeter, ses plumes qui volent au vent, parce que là c'est un poussin, mais un poussin pas loin de l'envol, donc il est aussi gros qu'un adulte. Et il ne bouge pas parce que, en fait, ce sont des animaux qui, sur Terre, n'ont pas de menace théoriquement. Mmh. Et donc il n'a pas de peur, et il est là à nous regarder pendant que nous transportons les caisses. Mmh. Enfin, le regard de cet albatros me reste gravé.
Je pensais que nous serions des chasseurs d'images, mais ce sont les images qui nous saisissent sans délai, écrivez-vous.
Oui, oui. Ben, on pensait venir pour regarder, puis on s'aperçoit que c'est nous qui sommes regardés. Ouais. Regardés par tous ces animaux qui ouais. nous regardent avec curiosité. Ils ne sont pas effrayés et ils nous regardent, ouais. ils nous scrutent.
Au cœur de la mission scientifique que vous accompagnez, il y a cette immense colonie de manchots royaux. Les scientifiques voulaient comprendre pourquoi la population de manchots de cette île avait chuté entre 1982 et 2018. Mais pour arriver jusqu'à la colonie à l'intérieur des terres, eh bien vous n'avez eu qu'à suivre la file ininterrompue de manchots qui s'y rendaient depuis la plage.
On découvre en fait l'autoroute à manchots, c'est le chemin qu'ils empruntent pour aller de la mer jusqu'à la colonie.
C'est un canyon quoi.
C'est un canyon qui c'est une veine en fait volcanique qui s'est végétalisée et les manchots l'utilisent pour aller jusqu'à leur colonie qu'on appelle l'amphithéâtre. On a tellement mis d'énergie à préparer cette mission que quand on arrive il y a forcément beaucoup d'émotions. C'est vraiment une découverte pour tous les gens de la mission.
La caractéristique des manchots là, de venir tout près là.
Ouais, les jeunes ils sont curieux, ouais. Surtout qu'ils ont sûrement jamais vu d'humain de leur vie.
Arrivé donc sur cette immense colonie, c'est un choc pour vous, Michel Izard, et pour les scientifiques que vous accompagnez aussi.
Oui, oui, c'est un choc, si vous voulez, à la fois émotionnel et sensoriel. Tous les sens sont en éveil, parce qu'on sait qu'il y a une grande colonie, et on sait qu'elle a baissé. Il y avait une photo qui montrait la colonie à son apogée, c'était comme une mer de manchots au milieu de la terre, quoi. Et quand on arrive, il y a d'abord les bruits, ça monte. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a le bruit de la colonie, ça piaille en permanence. Il y a l'odeur qui commence à arriver.
Ouais. Ça sent fort, cette colonie.
Ça sent très fort. Alors, ouais. Ça sentait, paraît-il, encore plus fort, et même du bateau à 1 kilomètre, quand il y avait 500 000 manchots, 500 000 couples. Là, il n'y en a plus que 60 000. Mais je peux vous dire quand même que 60 000 manchots rassemblés au même endroit dans un petit périmètre, c'est très très impressionnant.
Et puis ils vous fascinent, ces manchots, vous dites qu'ils ont une allure terriblement humaine. Alors ils sont particuliers, hein, les manchots royaux, à ne pas confondre avec les manchots empereurs qu'on trouve en Antarctique. Ces manchots-ci, vous trouvez qu'ils ont vraiment une allure, une bonhomie humaine?
Oui, ils ont une bonhomie parce que ils sont pas du tout farouches, ils se tiennent évidemment droit, ils marchent un peu comme des charlots, des Charlie Chaplin, et puis ils vous regardent, ils vous toisent, et en particulier les poussins qui, eux, ne sont pas de couleur blanche et anthracite, mais qui sont de couleur marron.
Ils ont des boules de poils, en fait.
C'est comme des boules de poils, des boules de plumes, et qui sont, eux, alors très curieux. Et c'est ce qui fait qu'ils sont familiers. Ils viennent vous interroger, vous picorer les bottes, vous assaillir de leurs cris et de leurs sollicitations. Plus tard, on comprendra. Le scientifique Charlie Bost nous l'expliquera, qu'en fait, les manchots ont une assez mauvaise vue, mais une très bonne ouïe, et qu'ils nous sollicitent au cas où nous serions leurs parents, qui pourrions leur donner à manger.
C'est-à-dire que tout ce boucan que fait la colonie, c'est pas pour le plaisir de la cacophonie, ce sont des façons de se reconnaître entre parents et enfants.
Oui, la seule façon de se reconnaître entre eux, ce sont les cris. Dès le plus jeune âge, le poussin apprend à reconnaître le cri de ses parents et les parents reconnaissent son cri. Et ils s'appellent et c'est ainsi qu'ils se reconnaissent. Mmh. Et pour nous, ça semble une cacophonie. Et en fait, c'est une partition où chacun joue sa musique qui fait que, au milieu de cette masse incroyable et de cette concentration de manchots, chaque parent va pouvoir retrouver son poussin. Ouais.
Alors, pas de temps à perdre pour l'équipe de scientifiques que vous accompagnez. Ils ont une enquête à mener, un temps très court pour le faire, 5 à 6 jours maximum. Quelles sont les hypothèses pour expliquer le déclin brutal de cette colonie de manchots? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de tester?
Et ils ont 3 hypothèses. Hypothèse de l'alimentation, ils ont un problème d'alimentation.
Plus assez à manger.
Plus assez à manger. Un problème de maladie qui aurait pu s'abattre sur la colonie. Et une troisième hypothèse, la prédation. Est-ce qu'il y a un prédateur qui s'attaque à eux?
Alors pour tester tout ça, comment? Déjà, vous êtes surpris parce que vous avez l'impression qu'ils pètent le feu, ces manchots. Ils ont l'air en parfaite santé, c'est-à-dire aucun manchot a maigri, pas de signe de maladie ou de malnutrition dans la colonie.
Non, c'est frappant. Et d'ailleurs, les scientifiques sont très surpris parce que tout va bien, les poussins se portent bien, il n'y a pas de cadavres, il n'y a pas de signes de maladie. Et pourtant, il y a dans cet espace de la colonie des zones qui sont inoccupées, dont on voit bien à l'évidence qu'elles étaient occupées avant. Donc il y a eu un problème, mais ce problème, au moment où nous y sommes, ne se voit pas.
Ouais. Alors du coup, ils vont placer des balises sur certains manchots pour pouvoir suivre leur déplacement en mer, savoir où ils se rendent. Ils vont aussi effectuer des prises de sang. Tout ça, ça implique de capturer le manchot. Mais vous dites, en fait, on ne capture pas ces manchots. C'est une cueillette, tellement ces animaux ne sont pas farouches.
Les animaux, ils sont pas farouches. Alors évidemment, quand on s'approche un peu, ils ont tendance à reculer. Eux s'approchent, mais si on s'approche nous trop près, ils reculent. Il y a un petit jeu. Mais ce qui était vraiment très passionnant pour moi, c'est de voir à la fois la manière de faire, la délicatesse, l'attention, le professionnalisme, l'éthique, je dirais, de ces scientifiques pour attraper le manchot.
Sans lui faire de mal, évidemment.
Sans lui faire de mal, parce qu'il faut l'immobiliser pour lui mettre une balise, l'immobiliser pour lui faire une prise de sang pour savoir s'il y a une maladie.
Alors, il ne semble pas tellement vous en vouloir, ces manchots, parce qu'ils restent quand même autour de vous. Quand vous en capturez un, les autres regardent avec curiosité ce qui se passe. Ils voient bien que leurs congénères sont relâchés un peu de temps après. Vous dites que vous-même, au réveil, petit à petit, quand vous ouvrez la tente, les manchots sont de plus en plus près de vous. Voilà, la cohabitation se passe plutôt bien.
La cohabitation se passe très bien. Moi, je dis, on a été très bien accueillis. Alors, c'était pas volontaire de leur part, mais on a été vraiment très bien accueillis. Au départ, ils étaient à 50 mètres de la tente, et puis à 30, et puis à 20, et puis le dernier jour, ils étaient devant la porte, devant les tentes, à se balader, même entre les tentes. Il y a comme une curiosité, mais aussi une indifférence. Qu'on soit là ou pas là, c'est pareil pour eux.
Vous allez nous dire si les investigations des scientifiques ont permis de comprendre ce qui arrivait à cette colonie de manchots. Et puis vous allez nous raconter l'histoire de naufragés qui ont passé plus de 18 mois sur cet île aux cochons par le passé. Nous poursuivons nos explorations avec vous, Michel Izard, sur cette île de l'archipel Crozet, dans le sud de l'océan Indien. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
C'est juste une seule fois. C'est juste une nuit comme ça. C'est juste ton corps que je soulève. De l'or au coin des lèvres. C'est juste que j'y pense encore un peu. À nos ombres dans la lumière bleue. C'est juste ta peau contre la mienne. Des mots qui me reviennent. Où je te vois loin la bouche. C'est juste nos lèvres. Se touche, c'est juste que je cherche encore tes yeux. Je cherche encore tes yeux. C'est si facile de s'y faire, en risque de s'y plaire, de se prendre au jeu. Ça reste entre nous deux, mais
C'était Lumière Bleue, chantée par Chien Noir sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Je crois qu'on ne peut pas trouver d'endroit au monde où on est autant dans cette nature. La nature primitive. C'est beaucoup d'émotions parce que c'est vraiment un des plus beaux endroits que j'ai vu des îles subantarctiques. Il y a tous les jeunes éléphants de mer qui sont nés il y a 3 semaines, 1 mois, dont certains ne sont toujours pas sevrés. Il y a des jeunes manchots qui partent en mer pour leur premier voyage, qu'on voit sur la plage. Waouh! Là, je crois que c'est ce qu'on doit protéger. Quel que soit ce en quoi on croit, on a l'obligation de protéger ce genre de site.
C'était un extrait du documentaire Le mystère de l'île aux cochons, réalisé par notre invité, le grand reporter Michel Izard. On entendait l'un de vos compagnons de route, le biologiste Cédric Marteau, ayant du mal à contenir son émotion sur cette plage grouillante de vie de l'île aux cochons dans l'archipel Crozet. Il n'en était pourtant pas à sa première expédition dans les îles australes et antarctiques, ce scientifique. Mais là, le spectacle semble particulièrement l'émouvoir, Michel Izard.
Oui, oui. Et d'ailleurs, moi, j'étais ému de le voir si ému parce que pour moi, évidemment, tout était nouveau, mais j'étais jamais allé dans ces terres australes. Et lui, il y a passé une partie de sa vie. Il est habité par ces îles. Et en arrivant sur l'île aux cochons, du fait qu'elle a été si peu fréquentée au cours du XXe siècle, elle est quasiment dans un état vierge. Mmh. C'est une nature foisonnante et une nature qui se laisse approcher avec ses éléphants de mer, ses manchots, ses albatros, les pétrels géants qui sont des animaux, des oiseaux extraordinaires. Et tout ça vit autour de soi à 1 mètre, oui. Et on est au milieu de cela.
Parfois même moins d'un mètre, hein, ces animaux. Vous racontez votre rencontre avec un éléphant de mer qui vous a quand même surpris et un peu fait peur, hein, il faut bien le dire, Michel Izard. Vous racontez les herbes et les mottes de terre où il s'était allongé, le cachet. J'étais à 50 centimètres quand il s'est dressé d'un coup à mon passage. Il me dépassait, gueule ouverte, dents pointues, crachant un sifflement étouffé venu du fond du ventre. J'ai bondi en arrière, ses grands yeux noirs humides m'ont regardé, puis il s'est levé dans sa couche, sans plus se soucier de moi. Vous n'êtes vraiment qu'une distraction très fugace hein, pour cette faune.
Très fugace, je l'ai un peu dérangé et moi, il m'a surpris, mais si vous voulez, ça fait peur, mais c'était pas de l'agressivité de la part de cet animal. Je l'ai dérangé et puis il est revenu à sa place, indifférent, en regardant la colonie de manchots qui était à côté.
Alors toute cette biodiversité si belle, il y a pas si longtemps, au 19e siècle, elle a été pour partie massacrée, parce que par le passé, des hommes sont venus sur ces îles de l'archipel Crozet et d'ailleurs dans les mers australes, les chasseurs de phoques. Vous parlez de la vie qu'ils ont menée sur ces îles. Comment se déroulaient leurs expéditions ?
Eh bien, leurs expéditions, si vous voulez, c'est quand Marion Dufresne a découvert les îles australes, il pensait qu'elles étaient inintéressantes. Il ignorait qu'il y avait une richesse. Et cette richesse, c'est les éléphants de mer et leur graisse qui donne de l'huile. Cela a attiré au début du 19e siècle les chasseurs de phoques qui arrivaient souvent de Nouvelle-Angleterre, des États-Unis et qui étaient sur des petits bateaux qui étaient, c'était des espèces d'équipes, ils appellent ça des gangs eux-mêmes, qui étaient déposés sur les îles avec des rouelles pour faire des tonneaux et qui étaient laissés là pendant des semaines à se débrouiller. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils avaient amené aussi des cochons, parce que voilà, à force de manger de l'albatros, du manchot et de l'éléphant de mer, on finit par se lasser, donc ils avaient introduit des cochons et ils vivaient là, sur ces îles, dans des conditions qui, moi, je trouve un étrange parallèle, c'est-à-dire qu'ils étaient comme dans des conditions de l'homme de Cro-Magnon, de l'homme des cavernes, sauf qu'ils avaient des armes de métal, mais ils avaient le feu comme les hommes de Cro-Magnon. Ils vivaient comme au paléolithique, pour donner à la société moderne de l'éclairage dans les rues de Londres, dans les rues de Paris ou de New York.
Parce que c'est à ça que servait cette graisse d'éléphant de mer.
C'est à ça qu'elle servait. Et ils ont fait un massacre, il faut le dire, épouvantable, sans le moindre scrupule. Ouais. Et ils ont massacré des éléphants de mer pour en retirer la graisse, mais ils massacraient aussi des manchots ouais. qui leur servaient parfois de combustible parce que pour faire chauffer leur chaudron.
Oui, parce que ça brûle bien, vous le dites. Hein, vous décrivez ces scènes qu'on retrouve dans les journaux de bord de ces chasseurs de phoques. On prenait les manchots, on les jetait parfois même vivants pour alimenter le feu qui faisait fondre la graisse.
Ah oui, parce que la graisse brûle bien. La preuve, elle éclairait nos villes. Elle éclairait nos maisons au 19e siècle et donc ça brûlait très bien et dans un brasier puissant. Pour ne pas dépenser l'huile des éléphants de mer à chauffer le feu, ils y mettaient des manchots.
Il faut quand même se mettre dans l'état d'esprit de ces hommes qu'on laisse sur ces îles pendant des mois et des mois avec la promesse de peut-être un jour venir les rechercher alors qu'ils étaient loin de tout. Vous avez une fascination-répulsion hein, pour ces hommes qui avaient quand même un certain courage, même s'ils ont commis des atrocités sur ces îles.
Mais oui, il y a quelque chose à la fois de inhumain et de profondément humain chez eux. Inhumaine leur pratique, ce massacre, inhumaine leurs conditions de vie. Aujourd'hui, on pourrait pas accepter ça. Et humaine aussi leur résistance, leur volonté de survie, leur combativité.
Ce sont des chasseurs de phoques qui ont eu l'idée, hein, vous le disiez, d'introduire des cochons sur ces îles subantarctiques, si bien que lorsque d'autres navigateurs arrivaient ensuite sur l'archipel de Crozet, ils étaient parfois surpris de la faune qui s'y trouvait, comme le raconte dans son journal de bord Charles Goodridge, marin engagé dans une campagne de chasse à l'Otarie. On disait chasse à l'Otarie à l'époque, en 1820 à Crozet.
En arrivant en vue des Crozets pour la première fois, nous aperçûmes sur la plus grande des îles de nombreux animaux que nous prîmes joyeusement pour des otaries. Aussi, notre déception fut-elle grande en découvrant à la lunette qu'il s'agissait de cochons. Nous débarquâmes sur cette île le jour de Noël et trouvâmes ces animaux très nombreux et très gros. Si formidables même qu'il était dangereux de les attaquer à main nue tant ils étaient féroces et parce que les mâles étaient armés de très grandes défenses. Nous tuâmes un très gros cochon et quelques petits, mais leur chair n'était pas très bonne car ils se nourrissaient d'herbes grossières et de cadavres de manchots.
Finalement, ça ne semble pas avoir été une très riche idée d'introduire ces cochons sur ces îles. D'abord, ils étaient agressifs. En plus, ils n'étaient pas bons à manger vu ce dont ils se nourrissaient.
Non, apparemment, la chair était immangeable. Vous imaginez un saucisson au goût de manchot pourri. C'est peut-être pas l'idéal gastronomiquement.
Ouais. Alors, il vous a particulièrement intéressé ce récit de Charles Goodridge. D'abord, c'est le premier à vraiment décrire précisément l'île aux cochons à l'époque où lui s'y rend au début du 19e siècle. Et puis, surtout, il va finir par être naufragé un temps sur une des îles Crozet. Et ça vous a permis d'imaginer ce qui avait pu se passer pour un autre naufrage encore plus spectaculaire. Nous sommes en 1825. Le bateau se nomme l'Aventure. À son bord, le commandant Guillaume Lesquin. Il envoie 9 hommes, les plus gaillards, pour aller chercher de l'eau, se ravitailler en eau douce sur l'île au cochon. Et c'est à partir de là que tout va mal se passer, raconté.
Oui, ils sont à court d'eau, ils ont besoin d'avoir de l'eau douce, et ils envoient ces hommes sur l'île au cochon, sauf que la tempête se déclare, se déchaîne, et le bateau, l'Aventure, bien nommé, est obligé de partir, de couper son ancre même, et de partir en laissant 9 hommes sur l'île au cochon. Et le problème, c'est que quelques jours après, ce bateau va lui-même faire naufrage sur une autre île de l'archipel Crozet. Si bien que ces 9 hommes vont rester là. Au début, ça les dérange pas parce que c'était un petit peu la technique. On laissait les fauquiers pendant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, et ensuite on venait les rechercher, ils le savaient. Sauf que le temps a duré, et ils ont dû survivre. Ouais. Et j'ai, par recoupement, reconstitué la manière dont pendant ces 18 longs mois, ils avaient pu survivre en se construisant d'abord un abri sous le canot qui les avait amenés là. Puis la tempête a détruit le canot et puis ils ont construit avec des mottes de tourbe un abri. Ils ont tué des éléphants de mer là non plus pour en tirer de la graisse mais pour les manger. en espérant qu'un jour on vienne les chercher.
Vous avez passé, vous, Michel Izard, 6 jours sur cette île aux cochons et vous avez eu un aperçu des conditions météorologiques qu'ils ont dû affronter, ces 9 hommes, pendant eux plus de 18 mois. L'avant-dernier jour de votre expédition, vous avez eu droit à ça.
Ici, grosse tempête. La météo est en train de se dégrader, beaucoup de vent, une forte houle et peu de visibilité. On va être récupéré demain à 9h. Impossible ce soir. Putain, la météo de merdouille. Mais enfin, on aurait pu avoir 5 jours comme ça. Hein.
'Cette tempête a décalé de quelques heures la venue de l'hélicoptère pour venir vous rechercher. Faut se mettre à la place de ces naufragés du bateau de l'aventure qui ont dû affronter des dizaines et des dizaines de tempêtes comme celle-ci pendant 18 mois. Vous,
oui.
Vous avez imaginé ça sur place?
Ah oui, j'ai imaginé ça parce qu'en plus nous avons retrouvé un chaudron et une petite grotte dans laquelle il s'abritait, qui était envahie de mousse, dans laquelle il restait des vestiges de bouts de métal qu'ils avaient dû utiliser. Et j'imaginais cet endroit comme un abri avec vue sur la mer, sur la plage, et c'est vraiment spartiate, c'est même pas spartiate, on est au temps préhistorique.
Ouais. Alors vous imaginez aussi, vous n'en avez pas la preuve, mais vous avez des indices qui vous permettent de l'imaginer, que c'est après ce naufrage et les histoires racontées par les naufragés que le nom de cette île est devenu l'île aux cochons. Parce que ces naufragés, au moment où ils ont échoué sur cette île, il y avait des cochons, et des cochons certainement féroces. Ils ont dû cohabiter avec eux, et vous imaginez que du coup ils les ont exterminés.
Oui, ils les ont exterminés. Ça, c'est les récits le disent, que bon, ils étaient agressifs, ils étaient immangeables, donc ils servaient à rien. Et je pense vraiment que le nom de l'île aux cochons a été donné par l'usage. Ce n'est pas un nom qui est tombé du ciel donné par un commandant. C'est les marins entre eux, ces fauquiers. C'est-à-dire, ah oui, Hog, parce que c'était surtout des Américains. Donc au départ, c'était Hog Island. Mmh. Et on a traduit en français l'île aux cochons. Et peu à peu, ça a dû circuler sur les bateaux, circuler dans les ports. Et comme c'était un endroit quand même très profitable pour la chasse aux phoques, eh bien, elle était connue. Cette île aux cochons, et je pense que ça devait être un sujet de plaisanterie. Oh, on va encore retourner sur l'île aux cochons, coquin de sort.
Nous allons revenir à nos manchots dans un instant. C'est pour comprendre les raisons du déclin de la colonie de manchots royaux sur cette île que les scientifiques étaient venus mener l'enquête sur place. Et vous allez nous dire ce que leurs investigations ont révélé, Michel Izard. C'était Making Sense Stop, chanté par Charlotte Adigéry et Bolis Pupul sur France Inter. Et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
C'est un jeune albatros.
Ça, c'est un albatros hurleur qui a déjà près de 9 mois, qui va partir dans quelques semaines. Et avant de partir, les jeunes albatros se musclent pour le vol.
Ce sont ses premiers battements, parmi ses premiers battements à terre.
Ah là, on est dans l'apprentissage, vraiment dans le début de l'aventure pour lui. Bah là, tu vois, quand on est sur des nids de grands albatros, on en profite pour voir s'il y a des plastiques. Voilà, petit bout de plastique, encore un autre bout de plastique, encore un bout de plastique. Ça, c'est un nid du poussin qui est juste derrière nous. Hein. Et en fait, ils confondent en mer leur proie avec les plastiques. Et c'est une cause de mortalité chez l'albatros. L'albatros se remplit l'estomac de plastique.
Un nouvel extrait du documentaire Le mystère de l'île aux cochons, réalisé par notre invité Michel Izard. Vous êtes donc sur cette île, loin de tout, dans l'océan Indien, à mi-chemin entre Madagascar et le continent Antarctique. Et sur cette île où l'homme n'avait pas mis le pied depuis 37 ans, un albatros donne à son poussin à manger des morceaux de plastique. C'est pas franchement surprenant, mais c'est assez emblématique de cette trace que les humains laissent partout sur la planète.
Et oui, un lieu si isolé, si loin de tout, est lui aussi affecté par la pollution. Et cet albatros, ce jeune albatros qui va, dans quelques jours, là, s'envoler, il va peut-être faire 100 fois le tour de l'Antarctique, sans jamais se poser à terre. Il va se nourrir en mer et il va manger des poissons, confondre et manger du plastique pour un jour revenir sur le lieu où il est né, pour lui-même se reproduire et amener peut-être avec lui ces bouts de plastique.
Les scientifiques que vous avez accompagnés sur cette île étaient principalement intéressés par le sort des manchots royaux. Donc je rappelle qu'entre 82 et 2018, bien que les humains ne soient pas passés par cette île, la colonie avait chuté de 90% en passant de 1 million de manchots royaux à 100 000 individus. Quel résultat a donné l'enquête des scientifiques?
Alors ce qui est beau, d'une certaine façon, c'est que ce mystère qui les a conduits là pour essayer, ils voulaient résoudre le mystère, et une part du mystère demeure. Cependant, les balises posées sur les manchots ont montré que ils vont se nourrir dans des zones qui sont plus au nord que ceux des autres îles subantarctiques. C'est-à-dire que ce qui était surprenant dans le déclin de la grande colonie de l'île aux cochons, c'est que dans d'autres îles comme Kerguelen, comme l'île de la Possession dont on a parlé, les colonies de manchots royaux avaient tendance à augmenter. Et là, cette chute brutale est surprenante et ils se sont aperçus que les manchots allaient se nourrir dans des zones plus au nord, sans doute où l'océan, on le sait, se réchauffe un peu plus et qui sont moins favorables parce que les eaux très froides des régions sud-antarctique sont très favorables au plancton, à la naissance de milliards de petits poissons qui sont la nourriture des manchots. Donc ça, c'est un premier point. Mais comme ces balises sont des balises aussi qui permettent de voir où ils vont en latéralement mais aussi en profondeur, ils se sont pas aperçus cependant que le comportement des manchots n'avait pas changé. Ils ne mettaient pas plus de temps à trouver leur nourriture, donc il n'y a pas de problème de nourriture.
Ils imaginaient aussi peut-être une épidémie. Est-ce que il y a eu une épidémie sur cette île?
Alors, ils ont trouvé des traces de choléra aviaire, mais ils n'ont pas trouvé d'animaux malades. Ce sont des traces qui sont dans le sang, mais ils n'ont pas trouvé d'animaux malades.
Donc il y a peut-être eu une épidémie par le passé, mais ils sont arrivés après la bataille.
Voilà, ils sont arrivés à pas... Le paradoxe, c'est que nous étions dans une situation où la colonie était devenue très saine, très vivante, et elle ne laissait pas de traces de ce qu'avait pu y avoir lieu. Une chose qui a été démontrée, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs. Il y a la présence de chats sur cette île.
Qui ont été introduits par l'homme, là aussi.
Introduits par l'homme, la présence de souris, mais on s'est aperçu que les chats ne pouvaient pas être la cause de... ne pouvaient pas s'attaquer aux manchots parce qu'ils ont beaucoup d'autres petits oiseaux à leur disposition. Donc, le résultat de l'enquête n'est pas certain. Ça pourrait être un cocktail, à un moment donné, une maladie qui survient dans un endroit où il y a une telle concentration qu'elle se répand très vite et qu'elle peut avoir des effets brutaux. Un problème d'alimentation quand même, parce que si, quand il y a 60 000 manchots, 60 000 couples, ils trouvent facilement de la nourriture, peut-être que quand il y en avait 500 000, c'était plus difficile. Et puis, un troisième phénomène qui, là, est lié au réchauffement climatique, qui fait ce cocktail pour l'explication, c'est que le phénomène El Niño, dont on parle souvent, je ne vais pas entrer dans les détails de son fonctionnement, mais se manifeste aussi dans les îles Crozet. Mais il a fait des dégâts à une certaine période. Mais comme l'île aux cochons est en dehors de tout radar, à l'écart de toute surveillance, l'effet El Niño a pu se produire de manière beaucoup plus forte sur l'île aux cochons. Et ça fait partie de l'hypothèse. Mais le mystère, vous voyez, ce qu'il y a de beau, c'est que finalement, la nature a encore le dernier mot. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir.
Il faut accepter finalement de ne pas savoir ce qui se passe sur cet endroit que les humains investissent très peu finalement.
Ben oui, c'est peut-être une des leçons à tirer de cette histoire, c'est que on a décidé de laisser l'île aux cochons à l'écart de tout, réserve naturelle intégrale, de ne pas y mettre les pieds. Et maintenant on s'aperçoit qu'il y a eu un problème à notre insu, sans que rien ne le laisse présager. Et il faut peut-être accepter de pas tout comprendre, de laisser une part au mystère, de laisser la nature faire son œuvre, accepter, avoir la sagesse de dire, eh bien, cette île, elle était isolée, laissons-la, n'y retournons pas, laissons-la vierge, y compris vierge, de notre regard.
Le mystère de l'île aux cochons, tel est le titre de votre livre, Michel Izard, paru aux éditions Paul Sen. Ça se lit comme un roman, hein, car vous émaillez votre récit d'une multitude d'histoires, d'expéditions et de naufrages passés. Nous en avons eu un aperçu dans cette émission. Et vous nous avez offert quelques photos prises lors de votre expédition que nous avons mises sur notre page Instagram et sur Facebook. Un grand merci à vous, Michel Izard.
Merci, merci. Et puis, pour moi, cette expédition était une aventure, mais l'écriture aussi est une aventure.
Ouais, on sent que vous aimez raconter ça, aussi bien avec votre documentaire qu'avec ce livre. Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes en passant par notre page sur franceinter.fr ou avec l'application Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.